Honoré de Balzac. Illusion perdue. En proie au chagrin que cause le manque d'argent, aux peines que lui donnait l'état de sa femme assassinée par l'infamie de Lucien, David cherchait toujours son problème. Or, tout en allant de chez lui chez Petit Claud, il avait mâché par distraction une tige d'ortie qu'il avait mise dans de l'eau pour arriver à un rouissage quelconque des tiges employées comme matière de sa pâte. Il voulait remplacer les divers brisements opérés par la macération, par le tissage, enfin par l'usage de tout ce qui devient fil, linge, chiffon. Quand il alla par les rues, assez content de sa conférence avec son ami Petit Claud, il se trouva dans les dents une boule de pâte. Il la prit sur sa main, l'étendit, et vit une bouillie supérieure à toutes les compositions qu'il avait obtenues. Car le principal inconvénient des pâtes obtenues des végétaux est un défaut de liant. Ainsi, la paille donne un papier cassant, quasi métallique et sonore. Ces hasards-là ne sont rencontrés que par les audacieux chercheurs des causes naturelles. « Je vais, se disait-il, remplacer par l'effet d'une machine et d'un agent chimique, l'opération que je viens de faire machinalement. » Et il apparut à sa femme, dans la joie de sa croyance à un triomphe. « Oh, mon ange, sois sans inquiétude !» dit David, en voyant que sa femme avait pleuré. « Petit Claud nous garantit pour quelques mois de tranquillité. L'on me fera des frais, mais, comme il me l'a dit en me reconduisant, tous les Français ont le droit de faire attendre leurs créanciers pourvu qu'ils finissent par leur payer capital, intérêts et frais. Eh bien, nous paierons. Et vivre, dit la pauvre Ève qui pensait à tout. Ah, c'est vrai, répondit David en portant la main à son oreille par un geste inexplicable et familier à presque tous les gens embarrassés. Ma mère gardera notre petit Lucien. « Et je puis me remettre à travailler, » dit-elle. « Ève, oh mon Ève !» s'écria David, les larmes aux yeux, en prenant sa femme et la serrant sur son cœur. « Ève, à deux pas d'ici, à Sainte, au XVIe siècle, un des plus grands hommes de la France, car il ne fut pas seulement l'inventeur des émaux, il fut aussi le glorieux précurseur de Buffon, de Cuvier. Il trouva la géologie avant eux, ce naïf bonhomme. Bernard de Palissy souffrait la passion des chercheurs de secrets, mais il voyait sa femme et ses enfants, tout un faubourg contre lui. Sa femme lui vendait ses outils. Il errait dans la campagne, incompris, pourchassé, montré au doigt. Mais moi, je suis aimé. Bien aimé, répondit Ève avec une sainte et placide expression. On peut souffrir, alors, tout ce qu'a souffert ce pauvre Bernard de Palissy, l'auteur des faïences des Coin, et que Charles IX excepta de la Saint-Barthélemy, qui fit enfin, à la face de l'Europe, vieux, riche et honoré, des cours publics sur sa science des terres, comme il l'appelait. Tant que mes doigts auront la force de tenir un fer à repasser, tu ne manqueras de rien, s'écria la pauvre femme, avec l'accent du dévouement le plus profond. Dans le temps que j'étais première demoiselle chez Madame Prieur, j'avais pour amie une petite fille bien sage, la cousine apostelle, Basine Clergé. Eh bien, Basine vient de m'annoncer, en m'apportant mon linge fin, qu'elle succède à Madame Prieur. J'irai travailler chez elle. « Ah, tu n'y travailleras pas longtemps, » répondit Séchard. « J'ai trouvé. » Pour la première fois, la sublime croyance au succès qui soutient les inventeurs et leur donne le courage d'aller en avant dans les forêts vierges du pays des découvertes fut accueillie par Ève avec un sourire presque triste, et David baissa la tête par un mouvement funèbre. « Oh, mon ami, je ne me moque pas, je ne ris pas, je ne doute pas !» s'écria la belle Ève en se mettant à genoux devant son mari. « Mais je vois combien tu avais raison de garder le plus profond silence sur tes essais, sur tes espérances. Oui, mon ami, les inventeurs doivent cacher le pénible enfantement de leur gloire à tout le monde, même à leurs femmes. Une femme est toujours une femme. » Tonève n'a pu s'empêcher de sourire en t'entendant dire « J'ai trouvé !» pour la 17e fois depuis un mois. David se mit à rire si franchement de lui-même qu'Ève lui prit la main et la baisa saintement. Ce fut un moment délicieux, une de ces roses d'amour et de tendresse qui fleurissent au bord des plus arides chemins de la misère et quelquefois au fond des précipices. Ève redoubla de courage en voyant le malheur redoubler de furie. La grandeur de son mari, sa naïveté d'inventeur, les larmes qu'elle surprit parfois dans les yeux de cet homme de cœur et de poésie, tout développa chez elle une force de résistance inouïe. Elle eut encore une fois recours aux moyens qui lui avaient déjà si bien réussi. Elle écrivit à M. Métivier d'annoncer la vente de l'imprimerie en lui offrant de le payer sur le prix qu'on en obtiendrait et en le suppliant de ne pas ruiner David en frais inutiles. Devant cette lettre sublime, Métivier fit le mort. Son premier commis répondit qu'en l'absence de M. Métivier, il ne pouvait pas prendre sur lui d'arrêter les poursuites. Telle n'était pas la coutume de son patron en affaires. Ève proposa de renouveler les effets en payant tous les frais, et le commis y consentit, pourvu que le père de David Séchard donnât sa garantie par un aval. Ève se rendit alors à pied à Marsac, accompagnée de sa mère et de Kolb. Elle affronta le vieux vigneron. Elle fut charmante. Elle réussit à dérider cette vieille figure. Mais quand, le cœur tremblant, elle parla de l'aval, elle vit un changement complet et soudain sur cette face soulographique. « Si je laissais à mon fils la liberté de mettre la main à mes lèvres, au bord de ma caisse, il la plongerait jusqu'au fond de mes entrailles, » s'écria-t-il. « Les enfants mangent tous à même dans la bourse paternelle. Et comment ai-je fait, moi? Je n'ai jamais coûté un liard à mes parents. Votre imprimerie est vide. Les souris et les rats sont seuls à y faire des impressions. Vous êtes belle, vous. Je vous aime. Vous êtes une femme travailleuse et soigneuse. Mais, mon fils, savez-vous ce qu'est David? Eh bien, un fainéant de savant. Si je l'avais lairé comme on m'a lairé, sans se connaître aux lettres, et que j'en eusse fait un ours comme son père, il aurait des rentes. Oh, c'est ma croix, ce garçon-là, voyez-vous. Et par malheur, il est bien unique, car sa retiration n'existera jamais. Enfin, il vous rend malheureuse. » Ève protesta par un geste de dénégation absolue. « Oui, reprit-il en répondant à ce geste, vous avez été obligé de prendre une nourrice. Le chagrin vous a tari votre lait. Je sais tout, allez. Vous êtes au tribunal et tambouriné par la ville. » Je n'étais qu'un ours. Je ne suis pas savant. Je n'ai pas été prote chez messieurs Didot, la gloire de la typographie. Mais jamais je n'ai reçu le papier timbré. Savez-vous ce que je me dis en allant dans mes vignes, les soignant et récoltant, et faisant mes petites affaires? Je me dis, mon pauvre vieux, tu te donnes bien du mal. Tu mets écu sur écu, tu lairreras de beaux biens. Ce sera pour les huissiers, pour les avoués ou pour les chimères, pour les idées. Tenez, mon enfant, vous êtes mère de ce petit garçon qui m'a eu l'air d'avoir la truffe de son grand-père au milieu du visage quand je l'ai tenu sur les fonds avec Madame Chardon. Eh bien, pensez moins à Séchard qu'à ce petit drôle-là. Je n'ai confiance qu'en vous. Vous pourriez empêcher la dissipation de mes biens, de mes pauvres biens. Mais, mon cher papa Séchard, votre fils sera votre gloire, et vous le verrez un jour riche par lui-même, et avec la croix de la Légion d'honneur à la boutonnière. Hé, qu'est-ce qui fera donc pour cela ? Demanda le vigneron. Vous le verrez, mais en attendant, 1000 écus vous ruinerait-il ? Avec 1000 écus, vous feriez cesser les poursuites. Eh bien, si vous n'avez pas confiance en lui, prêtez-les-moi, je vous les rendrai. Vous les hypothéquerez sur ma dot, sur mon travail.
David Séchard est donc poursuivi ?
S'écria le vigneron, étonné d'apprendre que ce qu'il croyait une calomnie était vrai.
Ah ! Voilà ce que c'est que de savoir signer son nom.
Et mes loyers ?
Oh ! Il faut, ma petite fille, que j'aille à Angoulême, me mettre en règle et consulter Cachan, mon avoué. Oh, vous avez joliment bien fait de venir. Un homme averti en vaut deux.
Après une lutte de 2 heures, Ève fut obligée de s'en aller, battue par cet argument invincible.
Les femmes n'entendent rien aux affaires.
Venue avec un vague espoir de réussir, Ève refit le chemin de Marsac à Angoulême presque brisé. En rentrant, elle arriva précisément à temps pour recevoir la signification du jugement qui condamnait Séchard à tout payer à Métivier. En province, la présence d'un huissier à la porte d'une maison est un événement. Mais Doublon venait beaucoup trop souvent depuis quelque temps pour que le voisinage n'en causât pas. Aussi, Ève n'osait-elle plus sortir de chez elle, elle avait peur d'entendre des chuchotements à son passage.
« Oh, mon frère, mon frère !» s'écria la pauvre Ève en se précipitant dans son allée et montant les escaliers.
« Je ne puis te pardonner que s'il s'agissait de ta...
« Hélas !» lui dit Séchard, qui venait au-devant d'elle. « Il s'agissait d'éviter son suicide. »
« N'en parlons donc plus jamais, » répondit-elle doucement. « La femme qui l'a emmenée dans ce gouffre de Paris est bien criminelle. Et ton père, mon David, est bien impitoyable. Souffrons en silence. »
Un coup frappé discrètement arrêta quelques tendres paroles sur les lèvres de David, et Marion se présenta, remorquant à travers la première pièce le grand et gros Kolb.
« Madame, dit-elle, Kolb et moi, nous avons su que monsieur et madame étaient bien tourmentés, et comme nous avons à nous deux 1600 francs d'économie, nous avons pensé qu'il ne pouvait pas être mieux placé qu'entre les mains de madame.
« Te, madame ?» répéta Kolb avec enthousiasme.
« Kolb !» s'écria David Séchard. « Nous ne nous quitterons jamais. Porte 1000 francs à compte chez Cachan, l'avoué, mais en demandant une quittance. Nous garderons le reste.
« Kolb, qu'aucune puissance humaine ne t'arrache un mot sur ce que je fais, sur mes heures d'absence, sur ce que tu pourras me voir rapporter. » Et quand je t'enverrai chercher des herbes, tu sais, qu'aucun œil humain ne te voit. On cherchera, mon bon Kolb, à te séduire. On t'offrira peut-être des 1000, des 10 000 francs pour parler. On m'offrirait bien tes millions, que je ne tirais pas une motte. Est-ce que je ne connais point la gonzigne militaire?
Tu es averti. Marche. Et va prier M. Petitclos d'assister à la remise de ses fonds chez M. Cachan.
Oui, fit l'Alsacien. J'espère être assez riche un jour, pire lui domper sur le gazaquin. Ah, cet homme, t'es justice. J'aime pas sa visage.
C'est un bon homme, madame, dit la grosse Marion.
Il est fort comme un turc et doux comme un mouton. En voilà un qui ferait le bonheur d'une femme. C'est lui, pourtant, qui a eu l'idée de placer ainsi nos gages, qu'il appelle des caches. Pauvre homme, s'il parle mal, il pense bien, et je l'entends tout de même. Il a l'idée d'aller travailler chez les autres, pour ne nous rien coûter. On deviendrait riche, uniquement pour pouvoir récompenser ces braves gens-là, dit Séchard en regardant sa femme. Ève trouvait cela tout simple. Elle n'était pas étonnée de rencontrer des âmes à la hauteur de la sienne. Son attitude eût expliqué toute la beauté de son caractère aux êtres les plus stupides et même à un indifférent. « Vous serez riche, mon cher monsieur. Vous avez du pain de cuit !» s'écria Marion. « Votre père vient d'acheter une ferme. Il vous en fait, allez, des rentes !» Dans la circonstance, ces paroles dites par Marion pour diminuer en quelque sorte le mérite de son action, ne trahissait-elle pas une exquise délicatesse? Comme toutes les choses humaines, la procédure française a des vices. Néanmoins, de même qu'une arme à deux tranchants, elle sert aussi bien à la défense qu'à l'attaque. En outre, elle a cela de plaisant que si deux avoués s'entendent, et ils peuvent s'entendre sans avoir besoin d'échanger de mots, ils se comprennent par la seule marche de leur procédure. Un procès ressemble alors à la guerre, comme la faisait le premier maréchal de Biron, à qui son fils proposait au siège de Rouen un moyen de prendre la ville en deux jours. « Tu es donc bien pressé, lui dit-il, d'aller planter nos choux. Deux généraux peuvent éterniser la guerre en n'arrivant à rien de décisif et ménageant leurs troupes, selon la méthode des généraux autrichiens que le conseil aulique ne réprimande jamais d'avoir fait manquer une combinaison pour laisser manger la soupe à leurs soldats. Maître Cachan, Petit Clos et Doublon se comportèrent encore mieux que des généraux autrichiens. Ils se modelèrent sur un Autrichien de l'Antiquité, sur Fabius Cunctator. Petit Clos, malicieux comme un mulet, eut bientôt reconnu tous les avantages de sa position. Dès que le paiement des frais à faire était garanti par le grand Cointet, il se promit de ruser avec Cachan et de faire briller son génie aux yeux du papetier en créant des incidents qui retombassent à la charge de Métivier. Mais, malheureusement, pour la gloire de ce jeune Figaro de la Basoche, l'historien doit passer sur le terrain de ses exploits comme s'il marchait sur des charbons ardents. Un seul mémoire de frais, comme celui fait à Paris, suffit sans doute à l'histoire des mœurs contemporaines. Imitons donc le style des bulletins de la Grande Armée, car, pour l'intelligence du récit, plus rapide sera l'énoncé des faits et gestes de Petit Clos, meilleure sera cette page exclusivement judiciaire. Assigné le 3 juillet au tribunal de commerce d'Angoulême, David fit défaut. Le jugement lui fut signifié le 8. Le 10, Doublon lança un commandement et tenta, le 12, une saisie à laquelle s'opposa Petit Clos en réassignant Métivier à 15 jours. De son côté, Métivier trouva ce temps trop long, réassigna le lendemain à bref délai et obtint, le 19, un jugement qui débouta Séchard de son opposition. Ce jugement, signifié roi de le 21, autorisa un commandement le 22, une signification de contrainte par corps le 23 et un procès verbal de saisie le 24. Cette fureur de saisie fut bridée par Petit Clos qui s'y opposa en interjetant appel en cour royale. Cet appel, réitéré le 15 juillet, traînait Métivier à Poitiers. « Allez, se dit Petit Clos, nous resterons là pendant quelque temps. » Une fois l'orage dirigé sur Poitiers, chez un avoué de cour royale à qui Petit Clos donna ses instructions, ce défenseur à double face fit assigner à bref délai David Séchard par Madame Séchard en séparation de biens. Selon l'expression du palais, il diligenta de manière à obtenir son jugement de séparation le 28 juillet. Il l'inséra dans le courrier de la Charente, le signifia dûment, et le 1er août, il se faisait par devant notaire une liquidation des reprises de Madame Séchard, qui la constituait créancière de son mari pour la faible somme de 10 000 francs que l'amoureux David lui avait reconnue en dot par le contrat de mariage, et pour le paiement de laquelle il lui abandonna le mobilier de son imprimerie et celui du domicile conjugal. Pendant que Petit Claud mettait ainsi à couvert l'avoir du ménage, il faisait triompher à Poitiers la prétention sur laquelle il avait basé son appel. Selon lui, David devait d'autant moins être passible des frais faits à Paris sur Lucien de Rubempré que le tribunal civil de la Seine les avait, par son jugement, mis à la charge de Métivier. Ce système, adopté par la Cour, fut consacré dans un arrêt qui confirma les condamnations portées au jugement du tribunal de commerce d'Angoulême contre Séchard fils, en faisant distraction d'une somme de 600 francs sur les frais de Paris, mise à la charge de Métivier, en compensant quelques frais entre les parties, eu égard à l'incident qui motivait l'appel de Séchard. Cet arrêt, signifié le 17 août à Séchard fils, se traduisit le 18 en un commandement de payer le capital, les intérêts, les frais dus, suivi d'un procès-verbal de saisie le 20. Là, Petit Claud intervint au nom de Madame Séchard et revendiqua le mobilier comme appartenant à l'épouse, dûment séparée. De plus, Petit Claud fit apparaître Séchard père, devenu son client. Voici pourquoi. Le lendemain de la visite que lui fit sa belle-fille, le vigneron était venu voir son avoué d'Angoulême, maître Cachan, auquel il demanda la manière de recouvrer ses loyers compromis dans la bagarre où son fils était engagé. « Je ne puis pas occuper pour le père lorsque je poursuis le fils, » lui dit Cachan. « Mais allez voir Petit Claud, il est très habile et il vous servira peut-être encore mieux que je ne le ferai. » Au palais, Cachan dit à Petit Claud, « Je t'ai envoyé le père Séchard. Occupe pour moi à charge de revanche. » Entre avoués, ces sortes de services se rendent en province comme à Paris. Le lendemain du jour où le père Séchard eut donné sa confiance à Petit Claud, le grand Cointet vint voir son complice et lui dit, « Tâchez de donner une leçon au père Séchard. Il est homme à ne jamais pardonner à son fils de lui coûter 1 000 francs. Et ce débours séchera dans son cœur toute pensée généreuse, s'il en poussait. « Allez à vos vignes, » dit Petit Claud à son nouveau client. « Votre fils n'est pas heureux. Ne le grugez pas en mangeant chez lui. Je vous appellerai quand il en sera temps. » Donc, au nom de Séchard, Petit Claud prétendit que les presses, étant scellées, devenaient d'autant plus immeubles par destination que, depuis le règne de Louis XIV, la maison servait à une imprimerie. Cachan, indigné pour le comte de Métivier, qui, après avoir trouvé à Paris les meubles de Lucien appartenant à Coralie, trouvait encore à Angoulême les meubles de David appartenant à la femme et au père, il y eut là de jolies choses dites à l'audience, assigna le père et le fils pour faire tomber de telles prétentions. « Nous voulons, s'écria-t-il, démasquer les fraudes de ces hommes qui déploient les plus redoutables fortifications de la mauvaise foi, qui, des articles les plus innocents et les plus clairs du code, font des chevaux de frise pour se défendre. Et de quoi ? De payer 3 000 francs. Pris où ? Et dans la caisse du pauvre Métivier. Et l'on ose accuser les escompteurs ? Dans quel temps vivons-nous ? Enfin, je le demande, n'est-ce pas à qui prendra l'argent de son voisin ? vous ne sanctionnerez pas une prétention qui ferait passer l'immoralité au cœur de la justice. » Le tribunal d'Angoulême, ému par la belle plaidoirie de Cachan, rendit un jugement contradictoire entre toutes les parties qui donna la propriété des meubles meublants seulement à Madame Séchard, repoussa les prétentions de Séchard père et le condamna net à payer 434 francs 65 centimes de frais.
Le père Séchard est bon, se dirent en riant les avoués. Il a voulu mettre la main dans le plat, qu'il paie.
Le 26 août, ce jugement fut signifié de manière à pouvoir saisir les presses et les accessoires de l'imprimerie le 28 août. On apposa les affiches. On obtint, sur requête, un jugement pour pouvoir vendre dans les lieux mêmes. On inséra l'annonce de la vente dans les journaux et Doublon se flatta de pouvoir procéder au récollement et à la vente le 2 septembre. En ce moment, David Séchard devait, par jugement en règle et par exécutoire levé, bien légalement, à Métivier, la somme totale de 5 275 francs 25 centimes, non compris les intérêts. Il devait à Petit Clos 1 200 francs et les honoraires, dont le chiffre était laissé, suivant la noble confiance des cochers qui vous en conduit rondement, à sa générosité. Madame Séchard devait à Petit Clos environ 350 francs et des honoraires. Le père Séchard devait ses 434 francs 65 centimes et Petit Clos lui demandait 100 écus d'honoraires. Ainsi, le tout pouvait aller à 10 000 francs. À part l'utilité de ces documents pour les nations étrangères, qui pourront y voir le jeu de l'artillerie judiciaire en France, il est nécessaire que le législateur, si toutefois le législateur a le temps de lire, connaisse jusqu'où peut aller l'abus de la procédure. Ne devrait-on pas bâcler une petite loi qui, dans certains cas, interdirait aux avoués de surpasser en frais la somme qui fait l'objet du procès ? N'y a-t-il pas quelque chose de ridicule à soumettre une propriété d'un centiaire aux formalités qui régissent une terre d'un million ? On comprendra, par cet exposé très sec de toutes les phases par lesquelles passait le débat, la valeur de ces mots, la forme, la justice, les frais, dont ne se doute pas l'immense majorité des Français. Voilà ce qui s'appelle en argot de palais « mettre le feu dans les affaires d'un homme ». Les caractères de l'imprimerie pesant 5 000 liers valaient, au prix de la fonte, 2 000 francs. Les trois presses valaient 600 francs. Le reste du matériel eût été vendu comme du vieux fer et du vieux bois. Le mobilier du ménage aurait produit tout au plus 1 000 francs. Ainsi, de valeur appartenant à Séchard fils et représentant une somme d'environ 4 000 francs, Cachan et Petit Clos en avaient fait le prétexte de 7 000 francs de frais, sans compter l'avenir, dont la fleur promettait d'assez beaux fruits, comme on va le voir. Certes, les praticiens de France et de Navarre, ceux de Normandie même, accorderont leur estime et leur admiration à Petit Clos. Mais les gens de cœur n'accorderont-ils pas une larme de sympathie à Kolb et à Marion ? Pendant cette guerre, Kolb, assis à la porte de l'allée sur une chaise tant que David n'avait pas besoin de lui, remplissait les devoirs d'un chien de garde. Il recevait les actes judiciaires, toujours surveillé d'ailleurs par un clerc de Petit Clos. Quand des affiches annonçaient la vente du matériel composant une imprimerie, Kolb les arrachait aussitôt que l'afficheur les avait apposées, et il courait par la ville les ôter en s'écriant
« Les coquins, dormant des ein si brafom, et ils appellent ça de la justice !»
Marion gagnait, pendant la matinée, une pièce de 10 sous dans une papeterie et l'employait à la dépense journalière.
Madame Chardon avait recommencé sans murmurer les fatigantes veilles de son état de garde-malade et apportait à sa fille son salaire à la fin de chaque semaine. Elle avait déjà fait 2 neuvaines en s'étonnant de trouver Dieu sourd à ses prières et aveugle aux clartés des cierges qu'elle lui allumait.